Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, aujourd'hui Accent d'Europe porte son regard vers la Corée du Nord, car actuellement 50 000 ressortissants de ce pays totalitaire seraient employés en Europe et dans le reste du monde, loin d'être des exilés politiques qui sont en fait en service commandé, avec pour mission de travailler comme des brutes afin de ramener des devises dans leur pays. 80% de leur rémunération irait directement dans les caisses de l'État nord-coréen, une façon pour le dirigeant Kim Jong-un de financer son régime dictatorial. Exemple en Pologne, où la majeure partie de ces Nord-Coréens est embauchée dans le bâtiment, les fermes et sur des chantiers navals. Maya Szymanowska.
Agriculture, chantier naval, bâtiment, il serait autour de 1500 travailleurs nord-coréens en Pologne, mais très difficile de les approcher. Sur ce chantier en banlieue de Varsovie, ces ouvriers polonais, eux, les ont côtoyés.
Ils gagnaient au mieux la moitié de notre salaire. Un bus les amenait tous les matins sur le chantier. Ils travaillaient 12 heures d'affilée, voire 19 heures, et n'avaient qu'une pause de 30 minutes entre midi et midi et demi, juste pour manger.
Ces travailleurs se font plus discrets depuis que leur présence en Pologne fait scandale. Des chercheurs de l'ONG sud-coréenne, alertés par la mort d'un Nord-Coréen sur un chantier naval de Gdańsk, ont dénoncé en juin dernier des conditions de travail proches de l'esclavage. Mais depuis des mois déjà, de nombreux syndicats avaient lancé l'alerte, comme Piotr Szumlewicz de l'OPZZ.
On peut parler d'exploitation en se fondant sur le code du travail polonais. Ils travaillent plus de 60 heures par semaine, or en Pologne, la norme est de 40 heures. Leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils sont sous-payés, ils sont épuisés, ils travaillent trop, et en plus trop souvent sans que les règles de sécurité ne soient respectées.
Ce qui rend toute aide difficile, c'est non seulement la barrière de la langue, mais aussi le fait que ces travailleurs nord-coréens ne veulent pas parler.
Ils ont peur de parler avec l'inspection du travail et encore plus avec les syndicats. Notre travail avec eux est compliqué, difficile de rentrer en contact avec eux.
S'ils ont peur, c'est que ces travailleurs seraient de véritables esclaves d'État. Les familles restées au pays sont utilisées comme moyen de pression contre eux. On menace leurs proches s'ils ne coopèrent pas. Leurs passeports leur sont aussi confisqués. Mais cette exploitation ne s'arrête pas là. Explication de Nicolas Lévy, chercheur à l'Académie des sciences de Varsovie et spécialiste de la question.
Les Nord-Coréens qui sont par exemple en Pologne, une partie de leur salaire est justement conservée par l'administration d'État nord-coréenne qui, de cette manière, se constituent des réserves en devises étrangères pour alimenter les comptes de certains clans qui sont à la tête de la Corée du Nord.
Selon les estimations des ONG et le témoignage de quelques rares fugitifs, 80% du salaire environ serait reversé à l'État. En Pologne, ces travailleurs seraient payés 400 euros par mois et ne garderaient que 100 euros pour eux. Dans la majorité des cas, ce sont des entreprises d'intérim nord-coréennes qui fournissent à leurs homologues polonais cette main-d'œuvre très bon marché. Des accusations que nie en bloc l'ambassade nord-coréenne à Varsovie.
C'est de la démagogie. Ce sont les entreprises polonaises qui emploient ces travailleurs.
L'inspection du travail polonais a bien effectué 16 contrôles en 2016. Mais le problème des travailleurs détachés de la Corée du Nord n'est clairement pas sa priorité. Jarosław Ciślewicz du département des travailleurs étrangers se justifie.
En ce qui concerne le respect du code du travail, la situation des travailleurs nord-coréens s'améliore. Il est vrai que les inspecteurs n'ont pas interrogé ces travailleurs et n'ont pas demandé leurs papiers d'identité. Leurs contrôles se sont basés sur les documents fournis par les entreprises. Ils n'ont pas cru utile de parler aux ouvriers eux-mêmes. Il faut dire qu'il y a cette barrière de la langue.
Une indifférence que dénoncent les syndicats et les ONG. Piotr Szumlewicz ne baisse pas les bras pour autant et rêve de fonder un syndicat regroupant ses travailleurs exploités.
Déposez-moi rue Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Voilà l'adresse que vous pourrez indiquer au chauffeur de taxi si vous passez par Tirana. Le maire de Kamza, un faubourg de la capitale albanaise, a au moins trouvé le moyen de faire parler de son quartier, Laurent Gélin.
Jusqu'à présent, Kamza n'était que l'une des nombreuses banlieues de Tirana, la capitale albanaise, dont la population a été multipliée par 4 depuis la chute du régime communiste en 1991 pour atteindre aujourd'hui près de 800 000 habitants. Alors, pour attirer les curieux dans ces faubourgs à l'urbanisme chaotique, le maire de la ville, Jelal Emziu, a eu la curieuse idée de rebaptiser les noms des artères de sa commune. On trouve donc des rues Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Tony Blair ou encore Sarah Palin. Les citoyens de Kamza peuvent aussi voyager à moindre frais et se rendre rue Tokyo, rue Paris ou rue Manhattan. Fervent admirateur des conservateurs du monde entier, le maire de Kamza n'a aussi pas hésité à faire de Donald Trump le citoyen d'honneur de sa commune, quelques jours seulement après l'élection de ce dernier à la tête des États-Unis. Dans un communiqué, Jelal Emziu a salué dans le prochain président américain un modèle révolutionnaire, un expert en économie et un grand dirigeant des temps modernes. Des louanges qui n'ont pas échappé au principal intéressé qui s'est fendu d'un message sur Twitter « Jelal, thank you very much bro » a répondu Donald Trump, assurant une gloire éphémère au maire de Kamza. Reste à savoir si l'Américain fera un jour le déplacement pour le remercier en personne. Jusqu'à présent, ni Nicolas Sarkozy ni Silvio Berlusconi ne sont encore venus se balader dans la banlieue de Tirana. Qu'importe, la liste des potentiels nominés est extensible à l'infini.
Le pitch est arrêté, les spliffs. Regarde plus la télé, je me sens tranquille. Vachement moins débile. Fini la thune foutue en l'air pour du Tchernobyl. Je suis moins mou.
Légaliser ou non le cannabis en France, le débat est de nouveau d'actualité avec le débat des primaires. À gauche, 3 des 7 candidats sont partisans d'une légalisation. À droite, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est déclarée favorable à une dépénalisation. Comme souvent sur cette question, plusieurs de nos voisins européens sont cités en exemple, pas toujours à bon escient, car dans ce domaine, les situations sont assez complexes, voire floues. Alors pour essayer d'y voir plus clair, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
On entend souvent dire que l'interdiction du cannabis en France est très contre-productive et engendre à la fois délinquance et surconsommation. Est-ce que c'est vrai ?
Bon, le lien de causalité entre répression et consommation n'est pas évident. Mais on doit constater que le caractère répressif du système français, jusqu'à 1 an de prison et 3750 euros d'amende pour l'usager du cannabis, n'a pas permis d'enrayer la progression de la consommation depuis 2010. Selon l'Observatoire européen des drogues, la France se situait en 2014 en deuxième position derrière la République tchèque des 28 pays de l'Union européenne en matière de consommation de cannabis, avec un taux de 22% des 18-34 ans ayant consommé dans les 12 derniers mois. Par ailleurs, le cannabis a donné lieu en France, toujours en 2014, à 53 000 condamnations pénales, soit 9% du total des condamnations. L'argument des partisans de la légalisation, comme Benoît Hamon par exemple, est de dire que l'arrêt de la répression permettrait d'économiser plus de 500 millions d'euros par an, somme qui pourrait être alors consacrée à la prévention. Sans compter qu'une légalisation avec monopole d'État rapporterait au Trésor 1,3 milliard d'euros de recettes fiscales. Bref, moins de trafic, moins de délinquance, plus de prévention et donc à terme moins de consommation.
Est-ce que ce postulat se vérifie dans d'autres pays ?
Franchement Laurent, on ne peut pas le dire. Parmi les pays répressifs, vous avez des pays où la consommation de drogue est assez réduite, chez les 18-34 ans, comme en Suède ou en Pologne. D'autres où elle est plutôt élevée, comme au Danemark. À l'inverse, la consommation est forte dans un pays permissif comme l'Espagne, mais beaucoup plus faible et en diminution au Portugal, pays également permissif.
Alors en résumé, Daniel, où consomme-t-on beaucoup et moins de cannabis en Europe ?
Sur les 18-34 ans, derrière la République tchèque et la France, on trouve des pays nettement au-dessus de la moyenne européenne de 13%, comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas. D'autres pays sont en dessous de cette moyenne, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et surtout la Suède et le Portugal, où seulement 5 à 6% des 18-34 ans ont consommé ces 12 derniers mois.
Pour rappel, Daniel, quels pays d'Europe ont légalisé le cannabis ?
Alors, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, la réponse est formellement aucun. On considère toutefois que deux pays mettent en pratique une légalisation partielle de facto. Il s'agit d'une part des Pays-Bas, où certains coffee shops sont autorisés à vendre légalement du cannabis et où la production de cette plante est possible à petite échelle. Mais tout cela est encadré et il est interdit de dealer de la drogue dans l'espace public. En Espagne, quelques 800 clubs de cannabis peuvent proposer ce produit au public, tandis que la consommation, voire même la production de cette drogue douce, ne fait l'objet d'aucune interdiction dans l'espace privé. En revanche, la consommation de cannabis dans l'espace public peut être frappée d'une amende de 600 euros, et sa vente est toujours considérée comme un crime. Du coup, les nouveaux mouvements Podemos et Ciudadanos font campagne pour une large légalisation.
Entre ces pays tolérants et ceux qui sont répressifs, quelles sont les politiques menées ailleurs ?
D'abord, une bonne moitié des pays de l'Union prohibent strictement le cannabis. Outre la France, il s'agit de la Suède et de la Finlande, pourtant habituellement libéraux, et de la plupart des pays de l'Est, à l'exception de la Slovénie et de la République tchèque, qui ne sanctionnent pas ou légèrement la détention de petites quantités. Quant au Royaume-Uni, il ne peut en rien être considéré comme laxiste, et malgré des expériences ainsi que des campagnes politiques réclamant la légalisation, détention, vente ou production de cannabis n'y sont pas dépénalisées. Cependant, en pratique, il y a une certaine tolérance en matière de consommation et de détention raisonnable, et les contrevenants ne risquent guère plus qu'un avertissement.
Est-ce qu'on retrouve ce pragmatisme dans d'autres pays ?
Oui, en Allemagne, outre la légalisation cette année du cannabis à usage thérapeutique, il n'y a pas de pénalisation en cas de consommation personnel et de facto, la détention de petites quantités est dépénalisée, les niveaux tolérés variant selon les lenders. En Italie, malgré les tentatives de Silvio Berlusconi de durcir la législation, la consommation n'est pas prohibée et la détention, voire la production de petites quantités à usage personnel, ne sont pas sanctionnées. Un projet de légalisation de l'usage récréatif, de la vente au détail, de la détention jusqu'à 15 grammes et de la culture de quantité limitée est même actuellement en débat au Parlement. Fait symptomatique, il est même soutenu par le syndicat principal de police.
Finalement, Daniel, cela va donc bouger en Europe sur les drogues dites douces ?
Oui, en effet, outre la remise en cause du tout répressif en France, un certain nombre de pays comme le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne réfléchissent aux moyens de sortir du flou qu'une tolérance non codifiée a créé.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info, à retrouver bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
Tourisme éco-responsable est tendance, et pas seulement à la campagne. À Paris aussi, hôtels et auberges se mettent au vert. 25 hôtels d'Île-de-France ont ainsi reçu l'écolabel européen. Et l'auberge de jeunesse Yves Robert, près de la gare du Nord à Paris, est à l'avant-garde des principes écologiques. Cet établissement d'une centaine de chambres a ouvert ses portes en mai 2013. Christine Zibert s'y est rendue.
L'auberge de jeunesse Yves Robert est un grand cube en bois niché dans une structure métallique. Elle a pris place dans un ancien entrepôt douanier dont le toit est recouvert d'innombrables panneaux solaires. Ses designs et ses écolos, Imen, Hind et Wessem, ont passé deux nuits dans l'auberge. Toutes les trois préparent un diplôme d'assistant manager, une formation qui les sensibilise aux gestes éco-responsables.
On en parle beaucoup de l'environnement, tout ça, par rapport aux entreprises, ce qu'elles peuvent faire pour améliorer l'environnement. Bah, comme ici, par exemple, prendre l'initiative de mettre des panneaux solaires.
Trier leurs déchets.
Voilà.
Trier les déchets. On a vu que le chauffage, ça marchait avec le système.
Oui, comment échauffer le bâtiment ? Pour le savoir, visite des sous-sols avec Edith Kolavitsa, la directrice adjointe de l'auberge.
Voilà, donc ça, c'est une centrale de traitement d'air, en fait. Donc en haut, c'est l'air chaud, c'est l'air vicié, qui est à destination de l'extérieur. Et en bas, c'est l'air neuf. Donc à ce niveau-là, en fait, il y a une grande roue, c'est un échangeur, qui s'occupe là de prélever la chaleur de l'air vicié et de la transférer à l'air neuf. Voilà.
C'est aussi simple que ça ? Que ce soit pour l'air ou pour l'eau usée, avant de s'en débarrasser, on en récupère la chaleur. Deuxième principe à l'œuvre dans l'auberge Yves Robert, le puits canadien ou encore puits provençal.
C'est la géothermie en fait, parce qu'en hiver, sous terre, il fait plus chaud qu'à l'extérieur et en été, il fait plus frais. Donc ça chauffe ou ça refroidit l'air. C'est juste qu'on a oublié qu'on construisait comme ça avant, ou on a oublié le sens en fait. Et que maintenant, petit à petit, en fait, on revient à des méthodes de construction qui existaient auparavant, c'est tout.
L'auberge essaye aussi de sensibiliser les clients par tous les moyens, affichettes, conversations. C'est en additionnant les gestes individuels qu'on réussit à moins peser sur l'environnement, affirme Edith Kolavitsa.
Éteindre la lumière, trier ses déchets, ou ce genre de petits gestes au quotidien qu'on essaye aussi de transmettre un peu aux gens. Après, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'en moyenne, les gens restent deux nuits. Donc, c'est arriver à sensibiliser ces gens, c'est aussi un travail titanesque. Et ouais, changer les comportements et les mentalités, ça prend du temps.
Voilà, on va voir une dernière chambre complètement différente encore une fois.
Même constat à l'hôtel Eiffel Trocadéro. L'hôtel 4 étoiles, situé à 2 pas de la tour Eiffel, accueille des clients habitués au luxe. Son manager Xavier Moraga est un pionnier du tourisme vert. Il est le premier à avoir reçu l'écolabel européen pour ses hôtels. Il respecte donc le cahier des charges imposées, utilisation d'énergie renouvelable, économie d'énergie et d'eau, réduction de déchets. Le message qu'il adresse à ses clients, épargner la planète ne passe pas forcément par des sacrifices douloureux. On peut par exemple très bien se passer des produits sur-emballés comme les petits savons et flacons de shampoing.
Quand on y réfléchit, un savon, vous les avez utilisés une ou deux fois et puis après c'est jeté. Donc l'emballage, la matière première, c'est extrêmement polluant. Par contre, si on le propose en disant, écoutez, on vous met des distributeurs de shampoing, de savon, en plus des shampoings et des savons bio ou écolabel, c'est beaucoup plus pratique. C'est pas du tout moins bon, au contraire. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir cet équilibre entre engagement écologique et perception que le client peut avoir du confort qu'il exige d'un hôtel 4 étoiles ou 3 étoiles. On peut s'attendre à des clients exigeants et qui n'ont pas forcément tous une conscience écologique.
Mais il y a aussi des clients qui viennent justement pour ça, qui demandent à faire du tourisme vert en ville, que ce soit à l'hôtel, à l'auberge de jeunesse ou encore dans des chambres d'hôtes. Régine Suret en sait quelque chose. Elle a fondé en 2008 la centrale de réservation Une Chambre en Ville qui propose des chambres éco-responsables chez l'habitant à Paris.
Et en fait, c'est une distinction pour nos chambres d'hôtes qui est née d'un constat qu'il y avait aussi bien des visiteurs que des propriétaires de chambres d'hôtes qui souhaitaient développer un hébergement chez l'habitant plus respectueux de l'environnement. On s'est rendu compte que les labels existants ne fonctionnaient pas forcément pour des chambres d'hôtes en milieu urbain. Il y a des contraintes spécifiques, par exemple le fait d'habiter dans un immeuble ne permet pas forcément de tout faire, tous les travaux d'isolation qu'on pourrait souhaiter. Mais par ailleurs, il y a quelques avantages. Le fait, par exemple, d'avoir des boutiques autour qui fournissent facilement des produits bio.
Ainsi, le label Authentic B&B est né avec le même but que les auberges et hôtels respectueux de l'environnement, éveiller ou renforcer la curiosité verte des clients pour qu'ils continuent à pratiquer les gestes écolos une fois de retour chez eux.
Partir sur les traces des fantômes, c'est le thème d'une sortie organisée à Palerme, en Sicile, au sud de l'Italie. Cécile Debarge était de la visite.
La chasse aux fantômes palermitains nécessite de bonnes chaussures et un dimanche matin de libre. Petites églises de quartier, immeubles historiques, palais des grandes familles nobles des siècles passés, les visiteurs sont guidés vers des endroits souvent déjà connus de la ville. Mais que personne ne s'attende ici à entendre réciter l'année de construction de l'immeuble ou le nom de son architecte, non pas du tout. Ce qui importe aux deux jeunes guides qui ont concocté le programme, c'est de dévoiler la face cachée de chaque endroit que l'on a l'impression pourtant de connaître par cœur. De s'intéresser à ceux qui ont nourri Palerme de leur histoire et de leur esprit. Mieux vaut passer son chemin, donc pour la vraie chasse aux fantômes. Les personnages que l'on découvre au fil de la visite sont plutôt des artistes, peintres et écrivains notamment. Des personnages dont il faut deviner l'identité. En guise d'indice, des petits papiers à accrocher avec des pinces à linge sur une cordelette pour reconstituer une citation célèbre. La lecture d'un extrait de livre devant la dernière demeure de Tommaso de Lampedusa ou la reproduction d'un tableau pour faire deviner que l'on cherche une peintre célèbre. C'est d'ailleurs à travers ce petit détail que l'on découvre par exemple qu'une peintre atypique du XVIe siècle, Sofonisba, était enterrée dans la crypte d'une église de la ville. Les visites étant organisées par une association locale, les places sont limitées et la date de la prochaine excursion est encore un mystère.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 temps universel et sur RFI.fr à la page émission.
Tous les cinémas du monde.